Création On Air. On Air. On Air. Creation On Air.
Bonsoir. Traduire maintenant, avec un ordinateur, avec les moteurs de recherche, les dictionnaires en ligne et toutes ces choses, c'est le grand confort. Bizarrement ou non, pour quelqu'un qui a pas mal lu de science-fiction dans les années 60 et 70, je ne crois pas au progrès, mais je crois au perfectionnement. Je me trouve meilleur traducteur à l'âge canonique que j'ai atteint qu'à mes débuts. Il a ainsi traduit Philippe K. Dick et aussi Bob Dylan. Il a écrit « Il tombe », « Un lieu d'air », tout comme « La vie quotidienne en Ille-et-Vilaine ». Christian Rosset retrouve ce soir le compagnon de route de plusieurs ACR, à la recherche de Didier Pemerle avec Gaël Gillon, création On Air.
Cette nuit, après que l'eau m'a quittée, j'ai rêvé d'une pomme de terre. J'avais trouvé la pomme de terre de ma vie. Ma solanacée, comme on dit ma dulcinée. Le rêve m'est revenu pendant que je me rasais face au miroir de la salle de bain. Je me suis dit, voyons si je peux augurer quoi que ce soit de ce rêve. Et je me suis préparée pour aller au marché.
Ça fait combien de temps qu'on se connaît ?
40... Ça fait 40...
41
ans. 41 ans, ouais.
Ouais.
Ouais, ça fait... C'est vieux, hein ?
Ouais. Ça va être un peu le sujet, le vieillissement, non ?
Ouais.
Les légumes, en effet, m'ont toujours puissamment impressionné, ainsi que ceux qui les vendent. Ils ne disent pas les salades, mais la salade, comme on dit le beau ou la liberté. Ce sont des philosophes qui parlent dans l'absolu. D'ailleurs, ils disent « Allons-y dans la salade, elle est belle, elle est belle ». D'ailleurs, je ne me demande jamais si les gens sont beaux ou pas, mais à partir de quel moment je les trouve beaux.
Mais comme on est à la radio, le principal vieillissement, ce qui passe, c'est la voix. Comment elle est ta voix? Comment tu la sens?
Bah, c'est marrant, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout et je t'avais dit une fois, j'ai eu la même réaction, la première fois que je me suis entendu à la radio.
Hein,
j'ai eu la même réaction que Baudelaire quand il a vu sa photo, la première photo. Il n'avait jamais vu sa photo. Il avait vu des croquis, pas de fond à la tour, de je ne sais pas qui, mais sa photo jamais. Et il a dit, mais c'est horrible. Tu vois, c'est... Il se sentait défiguré d'une façon. C'est marrant, hein.
Je suis arrivée au marché. Ils étaient tous là. Les navets et leur teint de fantôme poivreau. Les carottes et leur odeur de peau en été. Les brocolis et leur indéfrisable ridicule. Les choux-fleurs et leur tête de cumulus. Les poireaux délicatement arqués comme des comètes à queue verte. Les radis par paquets comme des élèves dans une cour de récréation. Les bêtes comme des embryons de peupliers. Les tomates tendues et pleines comme des vulves de babouines. Les cosses de petits pois aussi hermétiques que certains de mes amis poètes. Les Batavia comme l'insurrection figée de l'eau autour d'une pierre qui crève sa surface. Les salsifis et leur gueule de déterré. Les artichauts et leur geste de protéger une flamme bleue. Mais pas une seule pomme de terre. Absence notable. Absence significative. Absence qui voulait dire « Je n'y suis pour personne ». Absence à suivre. J'étais déjà au cœur du sujet.
Et tu ressens comment ton vieillissement ?
Pemerle, Didier Pemerle.
T'as quel âge déjà, ça serait ?
J'ai
information.
74. Je vais avoir 74 en avril.
Né ?
Né, oui, né. Le 24 avril, c'est-à-dire le même. Ah, le 24 avril 1943. J'ai l'impression d'être à l'hôpital, là. Tu sais, quand ils font vérifier aux gens, t'arrives sur la table d'opération, vous vous appelez comment ? Pemerle, prénom Didier, date, tu vois, le petit questionnaire pour être sûr que le gars se rend compte de ce qui va se passer et eux être sûrs qu'ils opèrent bien le bon avec ce qu'il y a à faire. Mm-hmm.
À la recherche de Didier Pemerle, Gaël Gillon, Christian Rosset.
Je reprends. Je nais. J'ai une enfance normale. Inquiète, mais normale. Je me suis marié comme on sait. Quand, un jour qu'il pleuvait, je me suis senti obligé par nécessité naturelle de porter des mallettes noires. Grandes, lourdes, normales. Moi qui ai toujours eu peur du noir, je trouvais en elles une forme maniable d'obscurité. J'en portais une par jour environ, du moins, les jours, c'était quand j'en portais. Une fois sur deux ou trois, je rencontrais toujours le même type avec son chien en laisse, qui me donnait une enveloppe contenant de l'argent, un billet de 10 euros. Bref, je vivais. Un jour, j'en ai eu assez. La vieillesse elle-même me déçoit beaucoup. Voilà, bon. Parce que je pensais que c'était un moment où on était plus cool, tu vois, on savait des choses. Et puis c'est pas vrai du tout. On sait toujours rien. On a perdu toutes les illusions et on n'a pas gagné beaucoup de savoir. Tu vois ? Donc, voilà, c'est... On a moins. Alors, peut-être que moins, c'est mieux. Hein ? Moins, c'est plus. C'est voilà, ouais, c'est le minimalisme. Mais le... Oui. Mais c'est pas le minimalisme, quand même. Non. Et puis, alors, le fait d'avoir été... D'avoir été le jeune écrivain, oui, effectivement, oui. On se le rappelle, c'est tout. Voilà, on se le rappelle, mais ça ne me fait rien. Voilà, je me le rappelle.
Fantôme promenade.
Charpie.
Atelier de création radiophonique, 1978.
Didier Pemerle.
Les femmes prirent les chemises des hommes pour faire de la charpie. Erckmann Chatrian.
De quoi te souviens-tu de ta jeunesse ?
J'ai de moins en moins de souvenirs. En fait, c'est pas que j'ai de moins en moins, c'est que j'en ai jamais eu beaucoup, mais c'est un petit peu maintenant que j'en aperçois. Voilà. Parce qu'on vit avec beaucoup de faux souvenirs. Tu vois, on raconte des trucs, mais ce qui sont la mémoire de ce qu'on a déjà raconté, c'est pas les vrais souvenirs, en fin de compte, j'en ai pas beaucoup. J'ai le souvenir de beaucoup m'être ennuyé, oui. De m'être beaucoup embêté à l'école, au lycée.
À quel moment tu t'ennuies plus ?
À quel moment je ne m'ennuie plus maintenant ?
Non, à l'époque.
À l'époque, quand je m'ennuyais plus. C'est marrant parce que je ne m'étais jamais posé la question, mais il y a une chose que j'aimais énormément, c'est prendre les transports en commun.
Depuis le début, il n'y a personne pour lui dire que ça pue, sous teint, à fleurs et crèves, par eau brisée, la surface de Porèche, parchemin, et par vous dont celui-ci est le plus perdu, la mort.
Et pour moi, c'était quelque chose de formidable de prendre le bus et prendre le métro. C'est les vieux bus avec la chaîne qui fermait la plateforme et tout, quoi. Ah non, ça j'aimais beaucoup. Me balader, prendre le bus, prendre le métro.
Il tombe de sommeil. Même en plein jour, il y a des nuits. D'où celle-ci qui tombe, qu'on sait.
Et lire, évidemment, lire.
Qui embaume celui qui dort assis, tous orifices cousus, jambes croisées pliées, la joue sur les genoux. Sans entrer dans les détails, ne retenir que ceci. L'eau chauffe sur le gaz. Et lui faire, à lui, se demander s'il aura le réflexe du corps en avant sur les dalles, à l'angle de la terrasse et du muret. Celui d'attendre avec la glotte aiguille de cadran affolé par le râle, les yeux verrouillés dans les bras. Que ça passe.
Ce que j'ai écrit dans l'ordre de la parution, pas forcément dans l'ordre de l'écriture, dans l'ordre des parutions, en 1970, assise devant un décor de tempête, dans la collection L'Écart, chez Robert Laffont, collection dirigée par Michel-Claude Jallard. En 1973, un monument au Mont Gerbier de Jonc, toujours dans la collection L'Écart, chez Robert Laffont. En 1979, il tombe chez Paul Tchaïkovski à Chette. Et en 1985, à trois jours de moi, chez Robert Laffont, directement. Alors, il y a un inédit qui date des années, de la fin des années 80, début des années 90, et qui s'appelle Le ventre vide. Et puis, un autre inédit beaucoup plus récent, là, que j'ai terminé, qui s'appellerait un titre encore un peu incertain, où il y aurait le mot modèle, c'est-à-dire modèle de peintre, modèle de photographe. Voilà, parce que c'est l'histoire d'un photographe, en partie. Et ce serait quelque chose comme peut-être les modèles désœuvrés, ou voilà. C'est-à-dire qui ne posent plus pour personne. Voilà.
Au jour le jour.
La journée du retour, atelier de création radiophonique, 1988.
Ces grains de moi.
Dire le vrai, c'est un souci?
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il faut le formuler correctement. En fait, quand je dis le vrai, c'est un peu au-dessus de mes moyens, voilà, philosophiquement parlant, bien sûr. Mais c'est plutôt l'exactitude que j'apprécie. Voilà. Il y a un monde, et puis il y a sa formulation. Bon, c'est la thèse un peu classique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le monde, hein, le concret, bon, donc, qui n'est rien, enfin qui est quelque chose, mais il y a la formulation qu'on en fait et qui le rend connaissable. Enfin, voilà. Et ça, je pense que c'est très important. Ouais. Mm-hmm.
C'est pour ça que tu écris?
Du moins, ça devient une raison d'écrire.
Je me pleus dessus.
C'est pas le primum novins, le premier motif, enfin, la chose qui te motive en premier, mais ça le devient, oui, effectivement. Oui, oui. Mm-hmm.
Donc tu ne peux écrire que des choses qui ont un fond autobiographique.
Ah, totalement. Ah, mais, oui. Alors, ça c'est étonnant, parce que j'ai relu justement celui-là, là, un monument au Mont Gerbier de Jonc, mais il y a des trucs, je me dis, mais je suis cinglé d'écrire des trucs pareils. Qu'est-ce que mes parents, mon frère, mes sœurs ont dû penser en lisant ça, quoi. Parce que, bon, c'est évidemment...
Allô? Ah, c'est vous.
Poétisé, d'une certaine façon, ça manque, j'aime pas beaucoup, mais c'est transformé, quoi. C'est littérarisé. Mais n'empêche... ils ont c'est-à-dire dû faire une drôle de... Ils m'en ont jamais parlé, d'ailleurs, ça c'est symptomatique. Mais ils ont dû faire une drôle de tête, quoi.
Hier soir, j'ai trouvé un début possible. Je l'ai tapé à la machine ce matin, c'est tout frais. Bah, pour l'instant, c'est très simple. Imaginez un type chez lui, dans un deux-pièces parisien. Il ne fait pas grand-chose. Il regarde par la fenêtre et il tient son journal.
C'est quoi dire des choses qu'il faudrait pas dire?
J'ai quand même... j'ai grandi dans une famille où on ne disait rien. Voilà. On ne disait rien. On ne donnait jamais une raison. On ne parlait pas de ses désirs, de ses envies, de ses affects. Voilà, on n'en parlait pas. Et donc, comment... Parler dans ces cas-là, et d'abord, est-ce qu'on ne se sent pas tellement le droit de dire quoi que ce soit? Mais vraiment, hein. Et comment trouver le moyen de se faire comprendre? C'est difficile. Hein.
Ne sachant pas qui le poursuivait sans cesse depuis des nuits, il se noircit les mains dans l'âtre. Je me retournerai, et s'il veut m'attraper, je le noircirai de telle sorte qu'au grand jour, je le reconnaîtrai. Il noircit sa veste en l'enfilant, son mouchoir et son nez en se mouchant, ses yeux en les frottant à cause de la fumée qui s'épaississait, son oreille droite en la doublant de sa main en cornet, quand une petite vieille lui demanda à voix basse son chemin. « Justement, dit-il, j'y vais, venez avec moi. » Les escarbilles qui volaient en tous sens étaient plus chaudes à mesure qu'ils avançaient. Lorsqu'ils arrivèrent devant le four, la vieille y pénétra comme dans un magasin. Quant à lui, il resta devant l'entrée, considérant qu'il avait devant lui un miroir dans lequel le reflet de celui qui regarde ne se forme qu'au terme d'une longue combustion.
Une éducation apparemment très puritaine.
Oui.
Et comment on parlait de, bah, par exemple, de fantasmes, de sexualité dans... C'est difficile, c'est
oui,
impossible.
Oui, c'est très difficile, ouais. Ouais, c'est très difficile.
Mais tu essayes ?
Oui, et ben, il n'y a rien de... Bon, c'est une grande banalité, mais il n'y a rien de plus difficile que de parler du sexe et de l'amour en général. Enfin, normalement, il y a du sexe dans l'amour, mais toujours. Mais non, c'est vrai que ça, c'est une des choses, littérairement, je trouve, hein, les plus difficiles. Les gens qui en ont bien parlé, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a une qui a essayé, ça peut paraître bizarre comme lecture de ma part, mais c'est Catherine Millet, par exemple.
Éparse. Pillée.
Elle, bon, elle montre tout. Voilà. Elle dit, enfin, on a l'impression qu'elle dit tout, qu'elle montre tout, et ça c'est pas mal, je trouve.
Ça te fascine ?
Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui. Mmh.
Grain de ma propre. Ah, je reconnais.
C'est plus facile de parler de la mort que de l'amour ?
Bah oui, bien sûr. Ben oui, parce que la mort, elle est oui, parce que oui, ça c'est marrant. Hein. Parce que le christianisme, qui est une religion d'amour, soi-disant, en fait, le véritable amour, c'est un peu dégueu, quoi. Bon, pour le christianisme. Alors que la mort, ça a des charmes. Hein. C'est béni, c'est la belle mort, tu vois, du mec qui agonise. En disant des choses élevées, enfin, ouais. Ok, martyr.
T'as préparé tes derniers mots ?
Pas du tout. Non. Je pense que des fois, il me semble qu'on a intérêt à la fermer quand même. Je me rappelle. Oh là là, c'était une scène complètement vécue, hein, mais banale aussi, une grande banalité. C'était à l'enterrement de la mère de ma première femme. Et j'étais donc au premier rang derrière avec mon ex-beau-père, qui est mort aussi d'ailleurs, et ma femme est morte aussi. Et tout le monde est mort d'ailleurs, de toute façon. Et alors donc j'étais au premier rang derrière le corbillard, et... ma femme me donne un coup de coude, ma première femme donc, me donne un coup de coude et me montre une couronne. Il y avait une faute d'orthographe monstrueuse. On est partis tous les deux à rigoler. Et les gens devaient dire, ça doit être nerveux. C'est parce qu'ils ont trop de peine. Voilà. En fait, c'était juste ça.
Qui face moi. Mouvement. Moins. De moi qu'il crie. Mes bas. Mon sac.
Il était partout chez lui sur cette étendue, sur la platitude blanche, sur la croûte gelée, sur la banquise. Il était chez lui, mais il ne cessait de passer et de repasser, et il faisait claquer son fouet au-dessus de la tête de ses chiens. C'était de tout petits chiens noirs, des chiens brûlés, comme on disait. Et sa main qui tenait leurs laisses réunies faisait toujours le geste de les semer loin devant lui, afin qu'ils l'entraînassent, ou ils l'entraînassent, aller et retour. Un jour, il chanta. Je me suis tellement lancé devant moi que je pourrais voir devant moi mon fils noir et transparent, mon fils couché comme un rien du tout, dans la dentelle de papier, et qui ne fait plus aucun effort pour sortir de sa boîte. Puis il reprit sa course en tous sens. Les ours blancs s'en impatientaient.
À petite rivière, petite chanson, que m'apporterez-vous nuages ? La pluie, la grêle ou le hoquet ? Et, bouche fermée, respiration bloquée, on enchaîne. Qu'un grand amour te bandelette, curetage de viscères et cervelage par le nez. Et d'ailleurs la poignée de chair du racloir lui sort au bas du ventre. Ne reste que la peau déjà décrite et les os à compter. Bref, il a envie de dégueuler, là, le dos contre le mur chaud. Il court s'habiller dans la chambre. Ça lui remonte dans la gorge, comme du sud, la nuée de lait granuleux, vomi de nourrissons, suspension, gel, précipitation de fines particules blanches au sein de laquelle il pleuvrait, se pleuvrait.
Couplé sur la formation des roches, on boucle, on ferme. C'est ainsi qu'elle se forme. Par poudroiement, dans une eau éteinte. Et tant qu'il nagera pour les poissons des abysses, ce sera le temps que mettra à retomber la poussière soulevée par le galop mécanique, mu au moyen de courroies, d'engrenages et de bielles, par la roue à aube. C'est un cavalier qui ne sourit pas, mais dont les coins de la bouche sont étirés par le vent de la course, vers ses oreilles rabattues, et le calcaire qui brune finira par enregistrer. On part du principe que la poussière soulevée est analogue aux particules sous-marines qui, se déposant, font les sédiments, et que, tout n'étant que poussière, le cavalier et le pli de sa bouche se conformeront à cet état de la matière où sera enregistré son rire. Qui écoute ? Maintenant la pierre, et dedans le sommeil. Il lui faudra beaucoup manier la pioche, cassée de roche, à celui qui voudra rejoindre ce repos au terme d'une phrase. Dormant, il dégueule à plat ventre sur le muret de la terrasse. Il regrette de s'être lavé avant.
On m'a dit que je parlais de choses dont les gens n'avaient pas envie d'entendre parler.
Voilà. Alors, quoi, par exemple ?
Les fonctions. Mais pour des choses qui sont pour moi, enfin, pas du tout privilégiées, mais qui sont normales, c'est les fonctions du corps, par exemple. Bon, c'est vrai que. C'est vrai que parler du de tout ça, des sécrétions, c'est pas très distingué, mais en même temps, pourquoi ce serait je vois pas ce qu'il y a de non littéraire là-dedans, quoi. Ah, ça, c'est le chat qui mange ses croquettes.
Il y a aussi des animaux crevés un peu partout, non, dans tes bouquins ?
Mais oui, mais quand j'étais mou, à la campagne, il y en avait. Hein, on passait dans un chemin, ça sentait la charogne, ben, il y avait un chat crevé ou une bête crevée, quoi. Oui, oui, mais ça, c'est, pour moi, c'est des choses. J'ai pas besoin d'exagérer, toi, de forcer le trait pour trouver ça, par exemple. Ça vient spontanément.
Arracher la transparence, dépouiller, enlever la tunique, mais la chair à nu. La transparence et adhérence.
Litière, 1979.
Arracher le pansement. Avec lui, la maladie peinte, dont la cause est le vent, le symptôme, la vague. Les vagues. La baleine blanche bouscule tout et prend le dessus. Dire bête d'épaisseur. Répéter. Dire épaisseur et milieu. Répéter. Faire son deuil, son travail. Répéter. Le blanc monte respirer, monte manger, en veut.
Certes, il n'a rien d'autre à faire. Certes, il a ses blessures, où les éclats pourtant n'avaient pas vraiment pénétré, et qu'il faut laver, torcher l'œil vert des abcès, avant de refermer le pansement, d'empaqueter le tout dans la bande velpo, paquet de trilobites, fossiles au fond des mers.
Le monstre est un corps monté, démonté, monté, démonté, dont les parties peuvent s'interchanger. Le monstre est un corps immortel de démembrement et remembrement. Le monstre est un être de montage. Le monstre est dans le bout à bout, dans la longueur et le défilement de la bande magnétique. La distance qui mesure la dispersion des membres est dans la largeur de la bande. Elle est la fureur qui dépaisse, l'ubris grec, qui est aussi le mélange, l'hybridation, le mixage.
Quatre. ne s'arrêtait, m'emporte.
Je sais pas, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose dans l'animalité qui me... Je sais pas trop quoi dire, en fait. Mais ça a trait avec les animaux, la mort et ce genre de choses.
Compris, tendu. La corde.
Et puis, bon, c'est vrai que c'est l'animal qui meurt quand on meurt. Hein. C'est pas... voilà. On devient de la viande, vite avariée. Ah.
De fonte, jetée, touchée.
Laissez-moi mourir. Atelier de création radiophonique, 1985.
Tout est là. Un bruit de papier déplacé qui glisse les uns sur les autres. Des scellés aux portes des bibliothèques vitrées. Des scellés sur le Revox, au cas où il aurait enregistré quelque chose. Des scellés sur le piano refermé. Les cylindres de papier calque inutilisés sont restés scotchés, vides et ouverts, les tiroirs du meuble à roulettes placés près du bureau. Cependant, un bruit de papier déplacé, de feuilles qu'on prend et repose. Des ellipses, des cercles qui se coupent, des suites de chiffres, des pavés de texte écrits à la main, un numéro de téléphone noté au feutre rouge, et des ratures. On écarte cette feuille. Dessous, des courbes tracées en pointillés avec, à leurs intersections, des amas de notes nerveusement griffonnées sur de minuscules portées recouvertes en bas de page par lait, pain, banane, yaourt, au feutre rouge. Ce bruit de papier froissé sur le bureau laqué blanc, un crayon tombe sur le tapis. Puisqu'il ne reste de visible et de palpable que des papiers sur le bureau blanc, un autre feuillet tombe sous la main. On y lit le mot « scarabée » répété plusieurs fois. Puis la phrase « creuser la terre ». Puis une citation. « Leurs couteaux ne me perceront pas, je n'entrerai pas dans leur géhenne, je ne descendrai pas dans leur salle d'abattage et je ne resterai pas prise dans leur nasse. » Au-dessus de chaque mot, des chiffres ou des formules rythmiques et dans un coin au feutre rouge, prévoir babysitter mercredi soir.
Tête vide contre ventre vide, os contre os, jusqu'où? Le passage le dira. Pas plus loin qu'elle. Il y a des collisions très lentes. Elle qui est ma propre image quand je la considère sans recul. Des chiens à bois, ne pas reculer. Ne pas non plus traverser le miroir, vieille lune, à quoi bon? Attendre toujours le portrait épaté en deçà de la surface qui réfléchit le portrait écrasé au-delà. Et, si je comprends bien ce qu'elle veut dire, puisque je n'irai pas plus loin, cette paroi infranchissable derrière laquelle je me vois, qu'elle s'assouplisse à force de temps, qu'elle soit contre ma face chiffon dont les plis me composent une façon de visage, plaquée sur moi par le vent de vide, obscurcie par le souffle noir et vain. Une façon, c'est ça. Face au gouffre opaque comme l'intérieur d'un os qui désormais me reflète, quelle autre gueule avoir ? Socialement, je suis pas un écrivain, voilà. Même si j'écris et que toi, que les bouquins sont publiés, socialement, je suis pas un écrivain.
Sauf à la radio.
Sauf à la radio.
Où on ne te voit pas.
Et... C'est ce que j'allais te dire. Oui, c'est parce qu'on me voit pas. Oui, bien sûr. Oui.
T'as quelle tête d'ailleurs?
Ben, c'est marrant. Moi, je trouve que je ressemble. Alors, personne ne peut comprendre évidemment de quoi il s'agit, mais je trouve que je ressemble à ma grand-mère paternelle. Voilà. Tu s'appelait...
Ça ne fait pas avancer beaucoup.
Mais... Non, pas du tout. Ça fait même carrément reculer. Mais... je suis maigre. Le nez un peu... proéminent. Non. Les joues creuses.
Oiseau, plutôt, ton nez.
Oui, proéminent, oui.
Tu as un merle dans ton nom.
Oui.
Le hasard et la nécessité ne sont pas des choses courtes. Pour y accéder... Il faut casser des noix peintes de scènes saisissantes de vie, emboîtées l'une dans l'autre. On ne dépasse jamais la vitesse de la lumière. Ce sont des duretés à traverser des vicissitudes. Une carte du désert. On a reconnu le désert. À preuve, les traces de celui qui en a exploré le blanc et qui en parle. C'est une parabole, parce que c'est une fonction. Les déserts diminuent à proportion qu'on les reconnaît, pour pouvoir dire que les déserts augmentent à proportion que les récits, s'y étant asséchés comme des ouèdes, ne parviennent pas à en sortir. On ne va jamais au-delà de l'atout. On ne peut pas tout dire. Le monde n'est pas parfait.
Comment ça se passait avec ta première femme ? Elle s'appelait comment ?
Elle s'appelait Delphine.
Delphine. Vous êtes rencontrés comment ?
Ah, on s'est rencontrés. Écoute, je ne me rappelle plus.
Et après ?
On s'est mariés. Non, c'est pas. Si, on s'est mariés d'abord. Enfin, au bout d'un certain temps. Mais. Puis on a eu un môme. Un an après. Oui, exactement un an après.
Vous l'avez appelé ?
Thomas. Thomas.
En hommage à Blanchot ? Thomas l'Obscur ?
Oui, un petit peu, oui. Oui. Pas en hommage, mais bon. C'est un prénom que je connaissais de tout ça. Et puis, voilà, ça s'est trouvé comme ça, oui. Ouais. C'était assez à la mode à l'époque. Hein.
Et vous avez... Vous n'avez pas vécu ensemble ? Avec ta première femme très longtemps aussi.
On a vécu de 65 à 71. Ouais, 6 ans.
Le môme avait 5 ans.
Oui, oui, oui. Puis il est venu vivre chez moi.
Et pourquoi ?
Comme ça, décision du jugement de divorce.
Tu semblais plus responsable ?
Sans doute, oui. Oui, oui.
Et comment on élève seul un gamin quand on est...
Ah, c'est dur. C'est dur. C'est dur.
S'impliquer quoi ?
Ben, s'impliquer qu'il... toute l'organisation matérielle, moi, ça ne m'a jamais fait beaucoup de problèmes. Bon, je suis assez débrouillard, ça va. Mais c'était faire accepter une certaine façon de vivre, faire accepter les amis ES, tu vois. Voilà, les concubines, ou là où les concubines, les voilà, tout ça. Et ça, c'est pas facile. Et puis lui, je pense que mon fils, hein, se sentait un peu sans doute en porte-à-faux vis-à-vis, pas en porte-à-faux, mais assez différent de ses copains qui avaient des quand même à l'époque, il y avait beaucoup de pères et de mères ensemble. Hein.
J'ai un souvenir, une fois, quand il... Ah, tu veux...
Non, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas ce qu'il fait.
Au bord de la mer, à Fromentine ou quelque chose comme ça, tu vivais avec une poétesse, on peut dire poétesse, s'appelait Martine Broda.
Ah oui ?
Et tu étais avec ton fils qui devait avoir quoi, une dizaine d'années ? 11 ans ? Quelque chose comme ça.
Il avait exactement 10 ans, oui. Oui, oui.
Et on lui avait demandé, comme on demande au môme, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Il avait répondu... Pas comme mon père, pas un intellectuel, pas un... Je voudrais être amoureux.
tiens, je me rappelais pas ça. Ah, je me rappelais pas. Ah, c'est marrant.
J'ai été un très long temps pas très bien. Une mauvaise neige, très lourde. Un mauvais temps. Une mauvaise douleur, je ne sais pas. J'ai été à plusieurs sommeils, très nombreux, de chez moi. J'aimerais de bonnes choses qui ne soient pas la neige. Je ne vois pas la neige, elle est trop blanche. Longtemps, les chiens, je les ai appelés des vers. Je disais, des vers, s'il vous plaît. Les chiens venaient et je disais, voilà les vers. Je me rendormais souvent parce que j'avais mal aux yeux de regarder mes chiens par leur nouveau nom. Longtemps, je n'ai rien mangé, mais je regardais les vers marcher dans la neige. Je faisais claquer mon fouet au lieu de chercher mes graines. Une mauvaise méthode, mais je dormais très vite pour rentrer chez moi plus tôt. J'étais du vent, très vite, très longtemps. Alors les vers, je les ai appelés des graines. Je disais, où sont mes graines que j'aimais tellement et que je ne devais jamais perdre ? Les vers répondaient, nous sommes des graines. Longtemps, je suis rentrée chez moi avec mes graines, sans arriver tout à fait. Longtemps après, je suis arrivée chez moi. La neige s'est arrêtée. J'étais là et il n'y avait personne. Très vite, j'ai dit, les graines sont de la cendre. J'étais rentrée chez moi et j'ai mangé de la cendre.
T'attendais quoi de l'écriture et de la publication
Très nettement, la reconnaissance. Très nettement, ouais. Alors là, sans... Je l'avoue, c'est la reconnaissance qui m'intéressait, la reconnaissance littéraire, ouais. De mon talent, de ce que j'écrivais, oui, bien sûr.
Et alors ?
Bah, c'est raté. C'est raté complètement, ouais.
Et pourquoi ?
Bah, pourquoi ? À cause de chacun des livres, d'une certaine façon, qui ne faisait que... qui ne faisait que confirmer que ce que j'écrivais, oui, d'accord, c'était pas mal, mais, tu vois, et c'est le mais, toujours, qui finit par l'emporter, là. Tout ce que j'ai présenté à des éditeurs depuis 20 ans, il y en a donc deux, parce que j'écris lentement, et puis je retravaille, et puis voilà. Mais ça n'a jamais vu le jour, quoi.
Il y a quand même un événement, parce qu'il faut quand même le dire à un moment ou à un autre, c'est que ce fils que tu as élevé, seul à un moment, il est parti de chez toi.
Oui.
Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait ?
Ben, il est allé chez sa mère. Il est allé vivre avec sa mère parce que elle n'était pas souvent là, tu vois. Alors que quand tu travailles chez toi, tu es tout le temps là.
Hein ? Ça devenait pesant pour lui.
Voilà, voilà, bien sûr. Ouais, ouais. Il avait quel âge ? Il avait 18. Attends, 84, oui, il avait 18 ans. Ouais, 18 ans, ouais.
Là, tu te retrouves seul chez toi, voilà. La plupart du temps, et c'est là où tu écris, tu finis d'écrire et de publier ton dernier livre, à ce jour publié.
Exactement.
Qui s'appelle À trois jours de moi, voilà. Dont Thomas et son père sont toujours les personnages principaux.
Oui, oui.
D'accord. Donc, il y a un manque pour toi, ou alors une drôle de situation. Est-ce que ça t'amène à avoir un sentiment de liberté que maintenant tu vas pouvoir écrire mieux, plus, que tu es dégagé de quelque chose ?
Non, ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a strictement aucun rapport. Non, non.
Et qu'est-ce qu'il fait une fois que ce fils, une fois qu'il va chez sa mère ?
Bah justement, lui, je pense, hein, d'après les échos que j'ai eus et ce que j'ai fait pour lui, hein, il se droguait. Hein. Et donc.
Avec quoi ?
Alors, peut-être avec je peux plus demander, mais peut-être avec de l'héroïne et surtout avec des médicaments, des benzodiazépines, des choses comme ça. Ou des barbituriques, mais plutôt des benzodiazépines, je crois. Pas des calmants, des tranquillisants. Et donc je suis allé. La dernière fois où je l'ai vu un peu longuement, où on a parlé, c'était quand je l'ai accompagné à Marmottan, à la consultation, justement, d'addictologie. Voilà. Et après, il a été pris en charge, alors par l'intermédiaire de sa mère, si je me souviens bien, par un gars qui faisait des espèces de croisières sur un bateau à voile. Je ne sais pas si tu vois, c'est le Jaouen. Voilà. Il est parti, il est allé aux Antilles, je crois.
Pour se désintoxiquer ?
Oui, oui. Et il est revenu. Donc c'est quand il est revenu, en septembre 1987, qu'il était donc chez sa mère. Moi, j'étais parti aussi. On s'est loupé à l'arrivée. Je suis pas allé le voir. Je l'ai pas contacté tout de suite en revenant parce que j'avais des choses à faire, tout bêtement. Je savais qu'il était là. Et il est mort chez sa mère en septembre 87.
D'une overdose ?
Je suppose, oui. Sans doute overdose ou alcool et médicaments, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai voulu. Oh, c'est affreux parce que j'ai voulu aller à l'Institut médico-pédagogique. Enfin, je l'ai vu là, bien sûr, puisque. Mais j'ai voulu savoir et je n'ai strictement rien. Les flics ne disent rien dans ces cas-là, c'est bizarre. Il était majeur. Hein.
Tout le monde est en face, dans le cimetière. Même Thomas, le fils de François, qui a été mis là provisoirement d'abord. Puis définitivement, quand cette situation, à force de durer, est devenue nécessaire. L'histoire du garçon, très simple, est restée au présent. Déjà grand, il va de médecin en médecin exhiber des symptômes caractéristiques et se faire prescrire des anxiolytiques qui le maintiennent dans une stupeur constante, consolidée, le soir à la bière et à la vodka achetées par des adultes complaisants, abordés dans les supermarchés. Une semaine après son 17e anniversaire, on le trouve mort dans l'appartement inoccupé de sa mère, à côté d'un téléphone décroché. François effectue les démarches nécessaires et règle les détails pratiques. À chaque étape, au commissariat, à la morgue, à la mairie, aux pompes funèbres, il doit prononcer des phrases, répondre oui, non, à des questions. Et dans le taxi qui le ramène chez lui, avenue Rey, deux fois ses yeux rejettent des larmes comme par incontinence.
À partir de ce moment-là, tout ce que tu écris, qui est quand même nourri de cette relation, faut bien le dire, ne marche plus.
Plus du tout. Et c'est... Alors là, il y a quelque chose... Et c'est marrant ce que tu dis, parce que je m'en suis aperçu, On est en 2017, je m'en suis aperçu, je crois, en 2011. C'était chez des copains allemands à la campagne. Et ils me disaient, mais pourquoi t'as plus rien publié? Et je lui dis, bah écoute, c'est marrant, mais je crois que ça coïncide avec la mort de Thomas, de mon fils, parce que j'étais au courant de tout ce que j'avais fait. Et à la fin, je me suis dit, mais je lui réponds trop vite, là, c'est peut-être une réponse de commodité pour se débarrasser de la réponse. Mais en fin de compte, je pense que c'est ça.
Lors de l'enterrement, pour lequel François avait fait le voyage à Désières, dans le fourgon mortuaire, des enfants d'amis de son ex-épouse ont voulu joindre de petits objets au corps du jeune homme, alors que le cercueil, posé sur deux traverses de chemin de fer, va être descendu dans le trou. Le type des pompes funèbres refuse sèchement et fait signe au fossoyeur, hésitant de poursuivre. On se récrie. Plusieurs voix adultes s'élèvent pour souligner que c'est là le vœu d'enfant qui, comme on le sait, exprime des sentiments authentiques, porteurs des valeurs de la vie, auxquelles rien ne doit s'opposer. Du regard et d'un petit mouvement de la tête, l'homme des pompes, désemparé, interroge François. « Je ne connais pas ces gens et je me fous complètement de ce qu'ils mettront dans le cercueil », répond-il. Finalement, on entrebâille le couvercle en le laissant visser sur un côté, et on enfonce une cale dans l'ouverture. Les enfants y enfournent un élastique, une vieille calculette, une pièce de Lego, un mouchoir mouillé, des crocodiles en gélatine multicolore, et enfin une clé, ce qui fait sourire. On s'apprête à revisser, quand un môme jusque-là silencieux, et serrant contre lui une tortue des Galapagos en plastique, encouragé par l'exemple, insiste pour ajouter son jouet aux offrandes. « Pourquoi pas? Plus on est de fous, plus on rigole », grommelle l'ordonnateur. On lui demande de répéter ce qu'il fait, et on le conspue. Il réplique que vraiment, il n'est pas étonné que le pays soit dans la merde si les gens se comportent devant les urnes comme devant ce cercueil. Sommé de s'expliquer, de développer la comparaison, et refusant de le faire, il est insulté. Croque-mort de merde, enculé, et prié de la fermer,
mais le môme tend toujours aussi impérieusement sa tortue vers l'ouverture manifestement trop étroite. Pour élargir celle-ci, impatienté, le fossoyeur donne une vigoureuse poussée sur la cale qui disparaît à l'intérieur du cercueil dont le couvercle, avec un claquement singulier, se fend en deux moitiés, l'une projetée en l'air, l'autre, toujours fixée, ne recouvrant qu'une petite partie du corps de Thomas. Enfin, épouvantés par le spectacle, les enfants s'enfuient en hurlant vers la grille d'entrée.
Comment tu relis, ça sonne presque pareil, l'humour et la mort ?
Disons que c'est opposé un peu de l'évitable à l'inévitable, c'est un peu perdu d'avance, quoi. Enfin, l'humour est évitable, il y a des plaisanteries qu'il ne faut pas faire, il n'y a peut-être pas toujours le moment de rigoler. Et puis la mort, ben, quand il faut y aller, il faut y aller. C'est inéluctable. Donc, c'est. Oui, ça fait partie des grandes platitudes de la vie. Hein. Mais enfin, on ne peut pas toujours. Vivre dans les Everest de la pensée, enfin.
Ouais. Peut-on parler de la mort avec humour ?
Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Bah, l'humour. Oui, d'une certaine façon, même, ça remet un peu l'humour à sa place. C'est-à-dire, ça remet l'humour du côté du dérisoire, du. Voilà. C'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal.
Le lundi 26, dès 8h, ils sont au cimetière, où deux excavations sont marquées de piquets reliés par du ruban plastique rouge et blanc. Il fait beau. En plus des fossoyeurs et d'autres ouvriers, il y a, à l'écart et habillés de noir, une demi-douzaine de gens, sans doute du village, mais que François ne reconnaît pas. La plupart des dalles ont été décellées et écartées comme au jour du jugement dernier. « Le maire n'est pas là ?» demande François à l'un des fossoyeurs. L'homme lui désigne un personnage grisonnant qui, assis sur les marches d'un petit calvaire, le regarde approcher. « C'est vous qui voulez prendre des photos ? On va commencer par votre tombe. » La dalle est écartée. Il ne reste plus qu'à hisser le contenu à la surface. Les fossoyeurs disparaissent sous terre. Bien que taché, par endroits, de gelée noire, le cercueil de Thomas est encore en bon état. Au lieu de faire sauter au pied de biche ou avec un coin et une masse la planche rectangulaire qui sert de couvercle, les fossoyeurs mettent un point d'honneur à la dévisser. François reconnaît son fils. La putréfaction est achevée. Il a de nouveau un visage, malgré la peau en papier japon violet collé à l'os, et ses vêtements sont tachés de l'intérieur. Les photos, les fleurs, les lettres, le mouchoir et l'animal en peluche sont uniformément noirs, et dépourvu de relief propre, plaqué, écrasé sur la poitrine. Une nausée sèche enfle dans la poitrine de François. Iris lui tient le bras droit. Le maire lui secoue le gauche en répétant inlassablement. « Ça va aller ? Vous les faites, vos photos ?» Il sort de sa poche un minox, photographie Thomas et dit « C'est bon, vous pouvez y aller. »
Dans le texte que tu as écrit, où le personnage mort, jeune, s'appelle Thomas, comme ton fils. Mmh. Pourquoi le père s'appelle pas Didier ? Je vois aussi que dans le texte, ils habitent Avenue Rail, qui était exactement l'adresse où le fameux Didier Pemerle vivait à ce moment-là. Mmh. Pourquoi ce changement de prénom et pourquoi François ?
Ben parce que François, c'est mon prénom. Je m'appelle Didier François. Didier François Pemerle, c'est moi.
C'est sorti comment ce texte ? Comment c'est pas évident à écrire ?
C'est vrai que c'est parti d'un texte sur les funérailles secondaires à Madagascar. On enterre les morts et puis on les déterre après un certain nombre d'années. On arrange les os et on les re-enterre. Il y a des cérémonies, ce qu'on appelle les funérailles secondaires, c'est ça, ouais. Je suis un grand lecteur de ce genre de choses.
Mais l'idée de faire ça à propos de Thomas, c'est quand même. C'est comme si tu ne. Tu y reviens toujours, finalement.
Il n'y a pas de jour où je ne pense pas à mon fils, par exemple. Ça, c'est évident, oui.
Et paradoxalement, sa mort t'a coupé dans ton élan d'écrivain. Et en même temps, ça te conduit à réécrire. C'est à la fois quelque chose qui empêche et qui stimule simultanément. Peut-être pas simultanément, mais ça va d'un empêchement à une incitation.
Oui, mais si tu analyses ce que tu viens de dire, c'est exactement comme quand on est en bateau, on immobilise une rame et on actionne l'autre et on tourne en rond. Ouais. Empêcher, stimuler, c'est exactement ça, on tourne en rond.
En rond ou en spirale ?
Alors, en spirale, c'est en rond, mais soit en élargissant, soit en restreignant le mouvement et en changeant de niveau. Voilà, c'est ça, la spirale. Donc, oui, c'est plutôt en spirale. Oui.
Simple fait divers dans les steppes d'Asie centrale. Les cavaliers qui font halte en clignant des yeux, comme s'ils tombaient de sommeil, plantent leurs tentes, font boire leurs chevaux et voient que les rejoint l'un des leurs, dans un brouillard de branches cinglantes, sur un tapis roulant de chiens blancs, à la langue rouge et aux babines noires.
Boucle qui répète inlassablement ceci, un cavalier, des cavaliers, les uns s'établissant, l'autre poursuivant sa course dans la forêt qui pleut, affrontant la citadelle de verre, passant la porte des aubes, s'engageant dans l'impasse de la meute qui neige, ceci qui rappelle la bande Velpeau qu'il achève de dérouler autour de sa cuisse gauche, formant une bobine qu'il passe alternativement de sa main droite à sa main gauche.
Le vent soulevait des colonnes grises qui s'évasaient, tournaient sur elles-mêmes et s'abattaient en spirale d'éclaboussures. Le ciel était bleu, mais les étoiles toutes visibles étaient rassemblées entre deux cyprès que le feu n'avait pas abattus, et au pied desquels, sur une pierre encore chaude, gisait la grande pisseuse de sang, qui ne montre rien entre ses cuisses pourtant largement écartées, qu'une surface labourée. Disons qu'elle apparaît sur le lieu des incendies qui ravagent périodiquement la région. Ce n'est ni bon, ni mauvais signe.
Depuis que j'ai 5 ou 6 ans, je situe ça à peu près à ce moment-là, parce que c'était le moment de la fin de l'école maternelle et du début de l'école primaire. Je me suis toujours demandé... Mais j'aurais pu ne pas être un être humain. J'aurais pu... qu'est-ce que je verrais? Qu'est-ce que j'aurais? Pas dans la tête, mais... De quoi seraient faites mes sensations si j'étais un ver de terre, un escargot, une fourmi, tu vois, des choses comme ça que je voyais tous les jours, enfin, bon, à la campagne. Et ça ne m'a absolument pas quitté, oui, absolument. Et c'est mes premiers efforts d'imagination, vraiment de concevoir les choses, essayer d'appréhender par la pensée, ça a été ça. Ouais. Si j'étais pas un être humain, comment je percevrais le monde? Voilà. Ça ne prédispose pas à la littérature, en fait, hein, pas du tout.
Comment peut-on faire ça dans la serrure? Ces vitres d'air qui se cassent contre moi. Un bruit, je suppose, alors que je n'ai pas recraché la clé. Comment tout ce bruit, par les commotions qu'il imprime à l'air, ne le sentirais-je pas sur les couches tannées, séchées, laquées de mon épiderme et sur la paroi interne de ma carcasse, où des grumeaux fibreux sont restés accrochés? Ce bruit me vibre. Tant pis pour la grammaire. Je suis si morte que tout a séché autour de moi. Sur le carreau de la cuisine. Quatre pieds par terre ne se déplacent jamais séparément. Si ce n'est pas un animal ou un enfant énorme, ce sont deux personnes. Oui, ils s'acharnent sur la poignée de ma porte. Non. Le buffet de cuisine poussé contre elle n'a pas bougé. J'aurais senti la masse d'air se déplacer comme un meuble, si peu que ce soit. L'aurais senti comme un rideau reconnaît le vent, le papier peint, le soleil. Pauvres gestes qui ne savent pas mentir. Ils entrent dans la chambre, ils passent par les portes, eux. La légère dépression produite dans le vestibule par leur déplacement est comblée par l'air de la chambre, qui entraîne au passage, quoi, je ne sais pas, qui vient porter par la bouffée de poussière exhalée sous la porte et sous le buffet, qui frôle ma peau entièrement minérale. Quoi, je répondrai là, non, une ressemblance avec la présence.
On n'écrit pas pour soi, d'abord?
Non, ça c'est des conneries. Enfin, ça c'est une... Non, pas du tout. Non, absolument pas. On écrit pour être lu par quelqu'un d'autre, évidemment. Ah non. Je ne crois pas du tout à ce genre de choses. C'est marrant. C'est pour l'autre. L'autre. L'altérité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une altérité qui n'est pas personnifiée? Ben justement, on ne sait pas trop, alors on écrit, voilà, pour le définir. Ça le définit d'ailleurs. Ce que tu écris définit une altérité. Ça ne définit pas toi. Toi, c'est pas. Ça en dit plus sur la façon dont tu vois les autres, ou l'autre, que la façon dont tu es toi. C'est pour ça que les choses autobiographiques, en fin de compte, c'est pas des révélations intimes. C'est pas des révélations intimes, c'est plutôt. Une façon de se montrer, et on se montre pas à soi-même, on se montre aux autres, enfin, si tu vois ce que je veux dire. Most of the time I'm
clear focused all around. Most of the time. À la recherche de Didier Pemerle, par Christian Rosset. Entretien avec Didier Pemerle à Antony le 20 février 2017 et à la Maison de la Radio, Paris, le 23 février 2017. Texte inédit de Didier Pemerle, lu par Emmanuel Marchadour et l'auteur. Avec des fragments d'émissions de l'atelier de création radiophonique de France Culture. Charpie, 1978, Litière, 1979, Laissez-moi mourir, 1985, et La journée du retour, 1988. Texte de Didier Pemerle, musique et partition sonore de Christian Rosset. Voix, Jeannie Gastaldi, René Farabet, Jean-Pierre Cassel et Annie Bertin. Nous remercions les personnes ayant contribué à rendre concrets ces ateliers de création. Marie-Dominique Arrigui, Daniel Bizien, Jean-Yves Bosseur, Monique Burguière, Annie Delers, René Farabet, Marie-Ange Garandeau, Yann Parentoen, Alain Truta, Yvette Tuchban. Production coordination, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko. Mixage Alain Joubert, réalisation Gaël Gillon.
Vous pouvez retrouver ce Création On Air en podcast sur notre site. Demain à 23h, ce sera « À quoi rêvent les militaires ?» Car pour Pauline Maucor, c'est à travers les rêves que la guerre leur revient avec la plus grande acuité. Et tout de suite, Philippe Garbi pour les nuits de France Culture.